Oh, qu'il est grand, le feu du plus pur amour qui brûle dans ton sacré cœur. Heureuse l'âme qui a compris l'amour du cœur de Jésus. Bonjour, chers auditeurs de Radio Espérance. En ce samedi 31 mai, nous fêtons la visitation de la Vierge Marie. Je vous ai dit lors d'une émission que la Vierge Marie a joué un rôle considérable dans la vie de Sainte Faustine et je vous proposerai pour clore cette série d'émissions sur le message de la miséricorde divine, une émission sur Marie, Mère de Miséricorde. Je pense que c'est bien de terminer avec Marie afin qu'elle nous aide à devenir des apôtres de la miséricorde selon le désir de Jésus. Et aujourd'hui, puisque nous sommes à la veille du 1er juin, mois du Sacré-Cœur, nous allons parler du lien entre les messages du Sacré-Cœur et de la miséricorde divine. L'extrait que vous venez d'entendre vient bien du petit journal de Sainte Faustine. Je suis très heureuse d'accueillir le Père Martin Prader. Bonjour Père.
Bonjour.
Vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel, directeur du séminaire à Bordeaux. Vous avez travaillé avec le Père Glottin sur un ouvrage qui s'appelle « La Bible du Sacré-Cœur ». Vous êtes également l'auteur du livre « Jésus doux et humble de cœur » et bientôt apparaîtra votre livre « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge ». Dans ces deux livres, vous rapprochez le message du Sacré-Cœur reçu à Paray-le-Monial du message de la miséricorde divine, disant qu'il s'agit de l'inculturation du message pour notre époque. Pourquoi ? Quel est le lien entre les deux messages ?
Eh bien, cette idée que le message confié à Sainte Faustine est en quelque sorte l'inculturation, c'est-à-dire l'adaptation pour notre temps, la culture des hommes de notre temps, du message de Paray-le-Monial, c'est une intuition qui vient du Père Glottin, justement, dans son livre « La Bible du cœur de Jésus », également dans un autre livre qu'il a publié sur les sacrements et le cœur de Jésus, à savoir « Les sept fleuves de feu ». En effet, lorsqu'on regarde le message confié à Sainte Faustine, l'icône de la miséricorde, son petit journal et les commentaires qu'en fait Jean-Paul II, notamment dans « Dives in Misericordia » et dans le dernier message qu'il a donné au monde de façon posthume pour la fête de la miséricorde, le message qu'il avait prévu de dire pour cette fête, mais en laquelle il a finalement rejoint justement la miséricorde du Père, eh bien, on voit que, en réalité, dans le message de Sainte Faustine, le cœur de Jésus est donné comme le symbole de cette miséricorde, le lieu même d'où jaillit cette miséricorde, sous les signes des rayons blancs et rouges qui nous renvoient à l'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 34, ce moment central et fondateur pour la spiritualité du cœur de Jésus, qu'est le transpercement du côté de Jésus par le centurion. Là même où nous le transperçons, hein, Dieu le Père, dans sa miséricorde infinie, fait jaillir du côté de son Fils le sang et l'eau, c'est-à-dire la grâce de son amour miséricordieux répandue dans les sacrements de l'Église, spécialement le baptême et l'Eucharistie, les sacrements sources, et donc fait ainsi naître l'Église comme le fruit et le don de sa miséricorde, comme l'épouse jaillit des entrailles de sa miséricorde pour son fils Jésus, le nouvel Adam endormi sur la croix et qui est représenté par Marie au pied de la croix. Et donc ce centre de l'évangile de Jean est précisément ce qui est déployé dans la fête du cœur de Jésus, demandé à sœur Marguerite Marie par Jésus au XVIIe siècle. La fête du cœur de Jésus, c'est en quelque sorte un vendredi saint spirituel où l'Église est appelée, à la suite de Jean et de Marie au pied de la croix, à lever son regard vers celui que nous avons transpercé, l'agneau debout comme immolé sur la croix, l'agneau égorgé dont parle l'Apocalypse, qui est Jésus, et ainsi, à avoir nous-mêmes le cœur transpercé, d'avoir transpercé le Fils de Dieu, et de lui rendre amour pour amour à travers ce regard à la fois de compassion, de repentance, hein, finalement de miséricorde que nous sommes appelés à porter sur Jésus. La fête de la miséricorde, elle, nous renvoie à un autre événement qui est central aussi, mais qui découle de ce récit du transpercement du côté de Jésus, qui est l'apparition du Christ ressuscité aux apôtres le dimanche de Pâques et surtout à Thomas le huitième jour après Pâques. En effet, dans ces apparitions, le Christ montre les plaies de sa passion qui sont maintenant glorifiées et surtout la plaie de son côté. Et il invite en particulier Thomas à avancer la main dans la plaie béante de son côté ouvert, qui est donc le lieu d'où rayonne son cœur miséricordieux. Et à travers cette fête, c'est encore autre chose qui nous est demandé, c'est de faire comme Thomas, l'expérience de la miséricorde de Dieu pour nous, manifestée dans son cœur transpercé, afin d'être converti, notamment de tous nos doutes, et de devenir les apôtres de la miséricorde pour le monde entier, dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Donc ce sont deux fêtes qui sont complémentaires, deux messages complémentaires, qui nous renvoient tous les deux au mystère du cœur de Jésus, qui est le centre de la révélation, mais sous un angle différent, qui se comprend dans le contexte historique dans lequel ces fêtes nous ont été données.
Merci beaucoup, Père. Quand on évoque le message du Sacré-Cœur, on l'associe tout de suite à la plainte de Jésus et à la réparation. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, effectivement, à Paray le Monial, Marguerite Marie va faire une expérience qui pourrait se résumer en trois temps. Le premier temps, c'est une déclaration d'amour de la part du Christ. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et pour dire son amour, Jésus emploie un symbole qui est précisément le symbole de son cœur. Le cœur qui signifie à la fois l'intérieur de la personne, finalement toute la personne, mais aussi, particulièrement dans ce contexte, son amour blessé. Et donc, Jésus, à travers ce cœur, nous redit qu'au fond, il est amour, que la foi chrétienne, c'est la religion de l'amour, et qu'au fond, il aime l'humanité à la folie, hein, comme le dit Saint Jean dans son évangile, il a aimé jusqu'à l'extrême. Le deuxième aspect du message, c'est que Jésus se plaint des froideurs, des irrévérences et des sacrilèges commis contre lui, notamment dans le sacrement d'amour qu'est l'Eucharistie, et il ajoute que ce qui lui est le plus sensible, c'est que ce sont des cœurs qui lui sont consacrés qui en usent ainsi. Alors, c'est très étonnant, hein, dans ce contexte de la France du fin du XVIIe siècle, oui, que Jésus se plaigne ainsi à une époque où la France est à 100% catholique et pratiquante, où il y a 120 séminaires en France qui sont tous pleins, où la France commence à exporter des prêtres dans au Canada, au Madagascar, en Asie, et où elle semble, au fond, finalement, du point de vue de la foi chrétienne, en plein apogée. Mais finalement, finalement, les choses sont peut-être moins belles que cela. Vous savez, Dieu, quand il regarde le monde, ne regarde pas les apparences, mais regarde les cœurs. Et c'est vrai que, en cette fin de XVIIe siècle, il y a déjà des signes avant-coureurs de la grande crise qui va venir au XVIIIe siècle, qui sera la crise des Lumières, qui aboutira à la Révolution française et finalement à l'athéisme du XIXe, au totalitarisme du XXe et je dirais à la postmodernité d'aujourd'hui où l'homme ne sait plus très bien qui il est. Hein, il hésite au fond à régresser dans l'animalité. Eh bien, comment se manifestent ces signes avant-coureurs ? Eh bien, tout d'abord, à travers, je dirais, un certain déclin de la mystique. À partir de 1660, les historiens ont noté que les mystiques qui avaient été mis à l'honneur au début du XVIIe en France, avec le mouvement de l'école française, eh bien, commencent à être un petit peu relégués dans la marginalité. Ce sera le cas de Marguerite Marie, de Claude Lacolombière, de Jean Eudes à la fin de sa vie, de Grignon de Montfort qui viendra un peu plus tard, de Jean-Baptiste de La Salle. On devient en quelque sorte un peu trop raisonnable. Voyez. Et puis, cet attiédissement est manifesté aussi par, je dirais, des divisions dans l'Église.
Dans l'Église,
entre
oui,
jansénistes, voyez, jésuites, gallicans, ultramontains, la querelle du pur amour de Bossuet, de Fénelon, la révocation de l'édit de Nantes qui va provoquer des réactions violentes contre les protestants. Il y a beaucoup de divisions qui commencent à se faire jour dans l'Église. Et donc, les choses semblent pas aller si bien que cela. Et probablement que Jésus, à travers ses apparitions, anticipe sur la grande crise du 18e et du 19e.
et 20e.
Et 20e. Comme toujours, il y a un temps, un décalage entre le moment où le message est donné et le message est reçu. Et Dieu en tient compte, en quelque sorte.
Bien sûr, on le voit à travers tous les témoignages qu'on a aujourd'hui, que ce message du Sacré-Cœur continue à faire beaucoup de bien.
Oui. Alors, il y a aussi un élément historique qui est nouveau, que, du moins qui n'avait pas été encore relevé jusqu'à présent et qui va être manifesté à travers un livre qui va sortir bientôt sous le titre de Le Clair Regard du Père Glotin avec des collaborateurs, le Père Dietberg, le Père Domergue et d'autres. Et un des aspects de ce livre qui va être très intéressant, c'est de manifester le lien possible entre la plainte de Jésus à Marguerite Marie et ce que l'on appelle en histoire l'affaire des poisons. C'est-à-dire un énorme scandale qui a défrayé la chronique à l'époque de Louis XIV et qui a manifesté qu'il y avait de son temps, à Paris et à Versailles, toutes sortes de pratiques ésotériques complètement glauques, d'empoisonnement, d'envoûtement, et de recours à la magie blanche et noire, y compris sous la forme aberrante et satanique des messes noires, c'est-à-dire de la profanation de l'Eucharistie par des prêtres validement ordonnés dans le cadre de l'Eucharistie validement célébrée. Et alors là, les historiens hésitent pour savoir si c'est précisément à ce moment-là que ce rite satanique a été inventé, notamment par un certain Guibourg, qui collaborait avec une sorcière du nom de Lavoisin, ou si c'est simplement un phénomène qui a trouvé là une certaine extension. Mais ce qui est sûr, c'est que, dans ce phénomène-là, on pourrait dire que c'est en quelque sorte l'expérience de Judas qui se réitère, c'est-à-dire que des prêtres retournent leur sacerdoce contre Jésus et contre l'Eucharistie. Donc c'est vraiment de l'ordre d'une trahison, voyez, et cela blesse très profondément le cœur de Jésus. On le voit dans l'évangile de Jean, c'est au moment où Jésus annonce la trahison de Judas qu'apparaît le disciple bien-aimé. C'est-à-dire que, au fond, cette douleur de voir son ami Judas ne pas comprendre son amour et finalement le refuser, c'est une douleur qui habite le cœur de Jésus très profondément depuis le commencement, dit Saint Jean. Et Saint Jean est, par pure grâce, choisi pour être en face de Judas celui qui se laisse aimer et celui qui va consoler le cœur du Christ. Or, c'est très frappant de voir que Marguerite Marie, précisément, va faire la même expérience que Saint Jean. En la fête de Saint Jean, elle va reposer pendant plusieurs heures sur la poitrine du Christ alors qu'elle est en adoration devant le Saint-Sacrement, et elle va expérimenter cet amour fou du Seigneur pour elle et pour le monde entier qui va se manifester à travers un échange des cœurs. Jésus va prendre son cœur dans sa poitrine, le mettre dans le sien, puis le replonger dans sa poitrine comme une flamme ardente. Et en même temps, elle va percevoir dès le début que ce cœur de Jésus, qui est toute douceur, tout amour, toute suavité, eh bien, en même temps, il est rempli d'amertume. Et Jésus, justement, se plaindra à elle, plus tard, des irrévérences et des sacrilèges commis contre lui, en ajoutant que ce qui est le plus sensible, c'est que ce sont des cœurs consacrés, donc des prêtres, des consacrés, peut-être des religieux, des religieuses, qui en usent ainsi. C'est vrai qu'on ne souffre vraiment que par ceux qu'on aime le plus, par ses amis.
Bien sûr.
Quand ses amis vous trahissent. Et dans le contexte aussi, on le voit à l'agonie, Jésus va souffrir, d'une part, de cette trahison de Judas, mais aussi de la défection de ceux, justement, qu'il a choisi à ce moment-là, pour lui tenir compagnie, à l'heure où il est face, je dirais, à cette totale solitude, cet abandon de la part des hommes et apparemment de la part de Dieu, apparemment seulement, et en même temps ses amis lui font défaut, voyez. Alors quelque part, le sommeil de Pierre, Jacques et Jean à l'agonie, ça évoque cet attiédissement des amis de Jésus, de ceux qui ont été choisis par pure miséricorde pour être ses intimes, les consacrés, les prêtres, mais qui peuvent aussi ne pas répondre à l'appel du cœur de Jésus. Donc c'est à la fois la trahison de certains, la tiédeur des autres, c'est ça dont Jésus se plaint à Parelmonia.
Oui, et
c'est
pour cela qu'il demande des amis.
Et voilà, c'est le troisième aspect du message, il cherche des amis qui soient pour lui des consolateurs.
Merci Père. Dans votre livre, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge » à paraître aux éditions de l'Emmanuel, vous nous expliquez que le message de Parelmonial nous invite davantage à contempler le cœur de Jésus à la lumière de la Passion avec Saint Jean, alors que celui de la miséricorde divine nous invite davantage à contempler ce cœur qui nous a tant aimé dans la lumière de la résurrection avec Saint Thomas. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Oui, alors le contexte là encore est différent. On pourrait dire que le message de la divine miséricorde, c'est ce message qui est donné pour aujourd'hui, pour ce temps de l'après-athéisme, où l'humanité a le choix, en quelque sorte, entre, encore une fois, régresser dans une espèce de dissolution de tout, de toutes les valeurs et au fond de tout le sens profond de l'humain, ou alors se tourner vers le cœur miséricordieux de Dieu manifesté dans son Fils ressuscité en faisant l'expérience pour elle-même de la miséricorde. Hein, c'est le message de Faustine. Jésus dit, mais cette humanité blessée parce qu'elle s'est éloignée de la maison du Père, elle a rejeté le Père du ciel, notamment à travers les idéologies du 19e et du 20e siècle, eh bien, cette humanité blessée, je ne veux pas la punir, mais la guérir en la pressant sur mon cœur, comme l'enfant prodigue. Et justement, Thomas, et comme les apôtres, sont ceux qui font cette expérience pour eux. Hein, quand Jésus apparaît à ses disciples qui l'ont abandonné dans sa passion, ses disciples qui n'ont pas cru en sa résurrection, ses disciples qui sont enfermés au Cénacle au lieu d'aller annoncer l'évangile de la résurrection, eh bien Jésus ne leur fait aucun reproche. Non seulement il ne leur fait aucun reproche, mais il les console. La paix soit avec vous. Et mieux que ça, il leur confie sa mission. Hein, recevez l'Esprit Saint. Et cette mission, c'est une mission précisément de miséricorde. Hein. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Au fond, le prêtre, comme le disait Jean-Paul II dans une lettre au prêtre en 2001, c'est un pécheur à qui Dieu fait miséricorde pour montrer à tous qu'il est miséricorde et pour en faire un instrument de sa miséricorde. Et c'est vrai aussi de l'Église tout entière. Et donc, dans le message de la miséricorde, au fond, il y a comme un envoi en mission de la part du Christ ressuscité à toute l'Église pour proclamer au monde la miséricorde de Dieu manifestée dans le cœur de Jésus, mort et ressuscité, et qui est proposé à tous les hommes. Et parmi tous les apôtres, il a fallu encore qu'il y ait un, Thomas, qui d'une façon particulière fasse cette expérience de la miséricorde de Dieu pour lui. Thomas, normalement, aurait dû croire d'abord sur le témoignage de Jésus, qui avait annoncé sa résurrection, et puis sur celui des 10, qui lui ont dit avoir vu le Christ ressuscité. Hein, comme nous, il était appelé à croire sur le témoignage des apôtres. Mais il a demandé un signe personnel. Et Dieu, dans sa miséricorde, lui a concédé ce signe. Et lui est apparu en lui montrant la plaie de son côté, hein, comme le signe indélébile de sa miséricorde, pour lui, Thomas, en particulier, et pour le monde entier. Et là, Thomas s'est converti et il a fait la plus belle profession de foi du Nouveau Testament, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et par là, il est devenu l'apôtre le plus missionnaire des 12, hein, puisque selon la tradition, il a été évangélisé en Syrie, en Irak, en Iran, en Inde et peut-être même jusqu'en Chine. Comme Paul a été l'apôtre de l'Occident, on pourrait dire que Thomas a été l'apôtre de l'Orient. Et c'est noté chez les docteurs de l'Église comme ça, Thomas, qui remarque cela. Donc Thomas, au fond, c'est l'homme d'aujourd'hui qui a du mal à croire, hein, qui doute, qui a du mal à croire sur le témoignage de l'Église, qui demande des signes pour croire. Eh bien Dieu, dans sa miséricorde, veut transformer nos doutes en conviction, voyez, en certitude de la résurrection pour faire de nous, hein, les pauvres petits pécheurs pardonnés, des témoins au cœur du feu de sa miséricorde dans le monde entier. C'est vraiment le kérigme qui est proposé. D'ailleurs, la fête de la miséricorde, elle est au centre de l'année liturgique, le 8e jour après Pâques. C'est vraiment le moment le plus solennel de toute l'année liturgique, comme pour dire que c'est vraiment le cœur de la proclamation de l'Église. Et dans la tradition, on dit d'ailleurs que le 8e jour, c'est celui qui vient accomplir le premier. Hein, le premier, c'est le jour de Pâques, où Jésus apparaît ressuscité. Le 8e jour, comme selon la tradition, évoque aussi notre résurrection. Thomas a été ressuscité par le Seigneur. Et chacun de nous est appelé à être ressuscité par le Seigneur pour devenir un témoin vivant par sa vie, mais aussi par sa parole et ultimement par le don total de sa vie de la miséricorde de Dieu. La tradition indienne nous raconte que Thomas est mort d'un coup de lance. Il est enterré à Madras, Chennai. Il a été confié jusque dans sa mort à Jésus miséricordieux. Voyez, c'est ce que nous sommes tous appelés à devenir, c'est ce que nous dit le message de Sainte Faustine, à la suite de Jésus, devenir icône de la miséricorde du Père, par d'abord nos actes, les actes de miséricorde, les œuvres de miséricorde, sur lesquelles d'ailleurs nous serons jugés, les œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde, donc nourrir les affamés, vêtir ceux qui sont nus, visiter les prisonniers, les malades, accueillir les étrangers, les œuvres de miséricorde corporelles, les œuvres de miséricorde spirituelles, prier pour les agonisants, prier pour les âmes du purgatoire, pour les pécheurs, veiller, enterrer les morts, consoler les affligés, annoncer la bonne nouvelle et surtout pardonner. C'est l'œuvre de miséricorde par excellence, hein, accepter d'être avec Jésus, hein, transpercé, mais au lieu de punir, de maudire, eh bien, comme Jésus le fait sur l'icône de la miséricorde, de bénir ceux qui l'ont transpercé, eh bien, nous sommes appelés aussi à bénir ceux qui nous font du mal, à leur pardonner, à leur apporter la paix de Dieu pour que le monde voie à travers nous la miséricorde du Père. Et cela, nous pouvons le faire avec Jésus. Sans lui, c'est impossible, mais avec lui, tout est possible. Parce que lui pardonne toujours, il nous donne à nous qui ne savons pas pardonner la possibilité en lui, dans son cœur miséricordieux, de donner tous les pardons. Et ainsi, d'être nous-mêmes transfigurés, comme l'a été Faustine. Vous savez que Faustine, c'est par ce chemin-là qu'elle est devenue très vite une sainte. C'est le chemin le plus rapide pour accéder à la sainteté, pour être configuré au Christ lui-même.
Et quelle est la place de l'Esprit Saint ?
Alors, le pape Jean-Paul II en a parlé dans son encyclique « Dominum et Vivificantem ». L'Esprit Saint, c'est à la fois celui qui provoque en nous la, ce qu'on appelait autrefois la componction, c'est-à-dire le transpercement du cœur, hein, qui nous permet d'avoir le cœur transpercé, d'avoir transpercé le cœur du Fils de Dieu, de prendre conscience que c'est par nos péchés, non pas ceux des autres, mais les nôtres, que Jésus a été transpercé. Vous voyez, c'est Jésus a vécu sa passion pour moi et à cause de moi. Il a été transpercé pour moi et à cause de moi. C'est ça, le premier effet de l'Esprit Saint, c'est de nous faire prendre conscience de cela. Et c'est la grâce des grâces. Voyez, à demander à Dieu, de regarder Jésus et de comprendre par l'action de l'Esprit Saint que moi, j'ai été responsable de sa mort et de sa passion. Et en même temps, l'Esprit Saint nous tourne vers la miséricorde de Dieu et nous ressuscite, voyez, par le pardon. Le pardon qui nous est donné dans les sacrements, spécialement dans le baptême, mais finalement dans le sacrement de réconciliation. Et qui nous permet alors de nous unir à Jésus dans l'amour par l'Eucharistie, les rayons blancs et rouges.
Merci.
Voilà le rôle de l'Esprit.
Merci. Dans votre prochain livre, que j'ai déjà cité, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge », à paraître aux éditions de l'Emmanuel, vous démontrez comment le message de la miséricorde divine est pertinent pour la nouvelle évangélisation. Vous nous en avez déjà dit un mot. Pourriez-vous nous expliquer davantage pourquoi ?
Eh bien, vous savez, nous sommes dans un contexte culturel où nos contemporains ont beaucoup de mal à croire au discours, à l'idée même de vérité. Et donc, on est tout à fait dans la configuration de, au fond, la situation de Thomas avant sa conversion. Thomas a eu besoin de quelque chose de tangible pour se convertir. Eh bien, le message de la miséricorde nous donne un moyen pour évangéliser nos contemporains. D'abord, des gestes de miséricorde. Les gestes, on ne peut pas les contredire, comme Jean-Paul II allant pardonner à son agresseur dans sa prison. Et aussi, des paroles qui viennent accompagner ces gestes. Et finalement, la prière pour demander la conversion de ceux à qui nous adressons ce message. Et voyez donc, Thomas finalement s'est converti en touchant la chair du Christ. La chair du Christ dans les sacrements. Hein, donc nous pouvons proposer, par exemple, la confession comme un lieu majeur pour recevoir la miséricorde de Dieu, mais aussi l'adoration eucharistique ou l'Eucharistie, la célébration, pour toucher le Christ dans son corps, dans son humanité glorifiée. Mais nous pouvons aussi toucher la chair du Christ à travers nos frères. Vous voyez, à travers la communauté chrétienne. Donc c'est une invitation aussi pour nos communautés à être vraiment des lieux où on puisse expérimenter la miséricorde de Dieu par la fraternité. Et ceci est vrai pour la vieille Europe, voyez, mais c'est vrai aussi par exemple pour l'Asie. Vous voyez, en Asie aujourd'hui, il y a un enjeu majeur de l'évangélisation de l'Asie pour notre temps. C'est le dernier continent qui n'a pas encore été vraiment, vraiment évangélisé. Et Jean-Paul II disait que le troisième millénaire devait être le millénaire de l'évangélisation de l'Asie. Bien, je dirais, ce qui est vrai du contexte relativiste dans lequel nous vivons en Europe est vrai aussi de l'Asie. Je crois que c'est par la miséricorde que l'Asie sera évangélisée. Donc c'est pour nous les chrétiens une invitation à nous convertir, pour nous-mêmes à recevoir, à faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, comme Thomas, dans l'Église, à travers les sacrements, à travers les frères, à travers les plus petits aussi, le toucher des plaies du Christ dans nos frères, sur lequel revient souvent le pape François. Hein, les plaies du Christ restent ouvertes dans celles de nos frères. Et en même temps, de devenir, du coup, d'avoir le cœur transpercé par cette miséricorde, pour devenir pour les autres, à notre tour, des porteurs de cette miséricorde par toute notre vie, par nos paroles et finalement par notre prière. Oui, je dirais que cette nouvelle évangélisation à laquelle nous invite l'Église à travers les papes depuis Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et aujourd'hui François, dans le sillage du Concile Vatican II, elle est profondément en lien avec ce message de la miséricorde pour le temps d'aujourd'hui. Et elle a aussi peut-être une tonalité un peu apocalyptique. En tout cas, c'est bien cette tonalité qu'a le message où Jésus dit à Faustine, de la Pologne sortira l'étincelle qui doit préparer le monde à ma dernière venue. Et Jean-Paul II, venant à Cracovie en 2002 pour inaugurer le sanctuaire de la Divine Miséricorde, confier le monde à la Miséricorde, dira que cette étincelle, c'est le message de la Miséricorde. Et donc, on pourrait comprendre ce message comme en quelque sorte le kérigme de la nouvelle évangélisation. Il s'agit d'annoncer l'évangile à toutes les nations pour que finalement Israël lui-même puisse être illuminé et accueillir le Messie et que Jésus puisse venir dans sa gloire. Alors, ça sera la résurrection des morts et le jugement dernier. Toute l'Église est invitée à préparer cette venue dans la gloire de notre Seigneur. Alors, n'hésitons pas, soyons témoins de la miséricorde pour hâter la venue du Christ. Oui, viens Seigneur Jésus, Maranatha.
Merci beaucoup Père, malheureusement il ne nous reste plus beaucoup de temps. Merci de nous avoir apporté une lumière sur ces deux messages. Nous pouvons prier pour que le cœur de Jésus soit toujours plus connu, plus aimé et que sa miséricorde soit glorifiée. La semaine prochaine, nous allons aborder le sacrement de la réconciliation à la lumière du petit journal de Sainte Faustine. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Pourriez-vous nous bénir, Père ?
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.